Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre. Il s'agit de Trembler, écrit par Catherine Laborde aux éditions Plomb. Je me permets d'abord de vous donner une brève biographie de l'auteur qui, pour beaucoup d'autres, vous avez certainement entendu parler de cette personne. Elle a travaillé à la télévision pendant très longtemps sur les bulletins météo. Je vais me permettre de donner quelques informations. Catherine Laborde est une animatrice de télévision, comédienne et femme de lettres française, née le 8 mai 1951 à Bordeaux. Père professeur d'anglais, devenu inspecteur d'académie, puis enseignant aux États-Unis. Mère, Maria del Pilar espagnole, membre d'un réseau de résistance franco-britannique, décoré par la reine d'Angleterre. Elle avait deux sœurs, Geneviève et Françoise Laborde, également journalistes. Étudiante, Catherine Laborde obtient une maîtrise d'anglais tout en suivant les cours du Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, puis elle montera à Paris. Le 1er janvier 2017, Catherine Laborde présente son ultime bulletin météo sur TF1. À 65 ans et après 28 ans de service, et remercie à la fin du bulletin les téléspectateurs de l'avoir suivi durant toute cette période. L'annonce de son départ est révélée avec surprise à la fin du journal télévisé de 20h, présenté ce soir-là par Audrey Crespo-Mara. Dans une interview donnée à RTL le 1er janvier 2017, elle indique que c'est elle qui a fait ce choix. « C'est ma décision. Je ne dis pas que c'est ma volonté, mais un désir. » Catherine Laborde est la mère de deux filles, Gabrielle, née en 1986, et Pia, née en 1990. En octobre 2018, Catherine Laborde révèle être atteinte de la maladie de Parkinson depuis 4 ans, ce qui l'empêche de faire du vélo, porter des talons et même écrire. En décembre 2018, elle précise qu'il s'agit en effet d'une démence à cordes Lewy. Catherine Laborde meurt le 28 janvier 2025 à l'âge de 73 ans, entourée de ses proches dans sa maison de l'Île-Dieu en Vendée. Son décès provoque de nombreuses réactions au sein du monde médiatique et politique, dont un communiqué de la présidence de la République regrettant la disparition d'une grande vedette populaire. Ses obsèques ont eu lieu le 6 février en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris. Incinérée au crématorium du Père Lachaise, ses cendres sont ensuite inhumées dans la plus stricte intimité au cimetière du Montparnasse. Je me permets donc de vous avoir donné ces informations et maintenant nous commençons la lecture. Trembler. Avertissement. Cher lecteur, vous trouverez ici et là dans ce texte des mots qui n'existent pas ou qui reproduisent plusieurs fois la même lettre, voire la même syllabe. Des mots réels, exacts ou non, qui apparaissent de façon quasi intempestive dans ce récit. Ne vous étonnez pas. J'aurais pu les effacer à la relecture, mais j'ai au contraire tenu à conserver les traces des difficultés rencontrées par mon cerveau lorsqu'il s'agit de le faire travailler, quand un intrus vient court-circuiter son fonctionnement. Voilà pourquoi certains mots sont indiqués avec un astérisque. Chers auditeurs, je vous le mentionnerai lors de la lecture. Cette faiblesse de l'esprit, ces carences ou absences ou dysfonctionnements des neurones survenus lorsqu'on ne les attend pas, tous les parkinsoniens pourraient vous les décrire, chacun à sa manière. Ils les rencontrent et les connaissent. Pour eux, pour moi, Parkinson est devenu un compagnon que je n'attendais pas, qui s'est installé en intrus et avec lequel il me faut cohabiter. Or, l'un des traits insupportables de cette maladie est précisément le silence auquel la personne qui en est atteinte se contraint par crainte de prononcer une incongruité. Je veux donc tenter de vous faire partager l'expérience que je vis et endure à travers ce détail stylistique afin que vous perceviez plus concrètement ce que nous, les victimes de Parkinson, éprouvons face à une réalité qui nous échappe, impossible à partager avec les bien portants malgré notre désir. Par peur, nous nous infligeons cet isolement. Vous remarquerez aussi au fil de votre lecture que le mot qui désigne cette maladie est orthographié de manière changeante. Seul le P majuscule sera la lettre pérenne, capable de faire reconnaître par qui, par qui sou, par qui non, etc., quelle que soit l'orthographe adoptée. Une autre manière de vous convier à découvrir et peut-être partager, à défaut de comprendre, notre quotidien chaque jour plus erratique. C'est aussi une vengeance personnelle. Si cette affection porte le nom de celui qui l'a découverte, un médecin anglais du XIXe siècle nommé Parkinson, si je respecte et admire ce chercheur, qui a fait progresser la science avec cette découverte de 1817, si l'idée de lui donner son nom vient du grand Charcot, qui souhaitait rendre hommage au découvreur de cette maladie neurologique chronique dégénérative affectant le système nerveux central. Le mal s'insinue tellement bien dans le verbe « trembler ». Il s'y installe, s'étale avec tant de sans-gêne et de volupté que je n'ai pas une seconde voulu lui faire la grâce de le reconnaître en l'affublant de lettres toujours différentes. Chacun sa manière de lutter, celle-ci, c'est la mienne. Prologue. Le vieil homme tente d'avancer, le regard tendu vers le fauteuil à l'autre bout de la pièce immense. C'est là-bas qu'il l'a oublié, il en est sûr. À cause de la brandade. Le vendredi, il a droit à la brandade de morue, et elle est délicieuse. Du coup, il a abandonné son journal pour vite, vite s'installer devant son couvert. Et ses jambes ont suivi. Il trottinait presque, à croire qu'il joue la comédie quand il prétend ne pas pouvoir marcher. Et après une sieste digestive un peu plus longue que les autres jours à cause de la brandade, le voilà réveillé, debout devant la porte du salon, à nouveau à la recherche de son journal et de ses mots croisés. Qui lui a encore pris son journal? S'il pouvait, il accuserait le chat. Ça y est, il l'a vu, et grâce au chat, justement, qui était couché dessus. Ce chat est magnifique. Le journal l'intéresse autant que son maître. Lui, pour l'odeur de l'encre et de la brandade, et son maître, pour les mots croisés et la brandade aussi. Tiens, viens prendre ce qui reste. C'est bien peu, mais c'est toujours ça. Et personne ne nous voit. Et à présent, aura-t-il la force d'aller chercher le journal ? Jusqu'au fauteuil à l'autre bout de l'immense pièce. Tout seul, on le laisse toujours tout seul. De toute façon, il déteste qu'on s'occupe de lui. tous ces gens qui vont, viennent et repartent. Infirmiers, aides-ménagères, c'est trop. Il ne les connaît pas. Ce ne sont jamais les mêmes, sauf le facteur. Le facteur, c'est toujours lui, Monsieur Gustave. Il est très gentil et jamais en retard. Il apporte le journal tous les matins dans sa voiture jaune. Un petit coup de klaxon pour prévenir de son arrivée. Et presque aussitôt, la silhouette du vieil homme se découpe dans la porte d'entrée. Il est heureux d'accueillir le facteur. Le rituel est respecté. Un astérisque. Comme tous les matins, M. Gustave propose de lui apporter le journal jusqu'à la maison. Ça vous fatiguerait moins. Vous n'auriez pas besoin de traverser tout le jardin. Mais il dit non, comme tous les matins. Ce n'est pas la peine. Ça lui fait un peu d'exercice. D'ailleurs, il l'accompagne jusqu'à sa voiture. Et il rit parce qu'il marche presque facilement. Et le facteur aussi rit pour la même raison. « D'accord, d'accord, comme vous voulez. Bonne journée. Adiousias !» Il attend que M. Gustave soit remonté dans son véhicule jaune avant de se hasarder à repartir à l'intérieur de la maison. Il tremble beaucoup à nouveau. La poignée du portail dans la main gauche, il vérifie que personne ne le voit et se risque quand même. Le journal coincé dans la ceinture du pantalon, le vieux monsieur avance comme on goûte l'eau avec le pied au bord de la mer, prudemment. Le pied droit glisse sur la dalle, puis le gauche, il va perdre l'équilibre. Mais non! Le corps immobilisé, il tend le bras gauche vers le lilas, s'accroche à une branche souple et d'un seul coup, comme si l'arbre lui insufflait de l'énergie, du dynamisme, de la jeunesse, il se redresse. Le corps est droit, les épaules dégagées, il a lâché l'arbrisseau et fait demi-tour d'un pas assuré vers la porte d'entrée. Le journal à la main, il sourit. Ce n'était pas si difficile. La maison l'attire, le protège de ce présent où il perd ses forces. L'ombre de sa femme l'accompagne dans toutes les pièces. Dans chacune, il peut se rappeler leurs moments de bonheur, l'époque où la folie ne l'avait pas encore envahi toute. Il a besoin de sa solitude pour la retrouver, elle. Il a hâte de mourir et clame à qui veut l'entendre que le jour de sa mort sera un beau jour parce qu'il l'aura enfin retrouvée, belle et jeune. Elle ne l'aura pas vue trembler. Lui refusera toujours de la reconnaître, réduite à sa déchéance. Mais aujourd'hui, vendredi, la mort reste éloignée et la brandade tient toutes ses promesses. Il a jeté un œil sur les mauvaises nouvelles du monde et a repris deux fois de la morue. Et puis, il a fait la sieste dans son bureau. À son réveil, l'attendent comme toujours le chat et les mots croisés. L'éternel rituel d'aller chercher son sud-ouest l'oblige à se déplacer encore en traînant les pieds, comme un bagnard épuisé. Il se sent si fatigué. Personne ne s'en rend compte, évidemment. Personne ne pourra l'aider, sauf le chat, qui soudain se roule par terre avec retour immédiat sur le haut du dossier pour aiguiser quelques griffes. Le vieil homme proteste, mais c'est pour la forme. Il sourit plutôt des cabrioles, saut et bond et culbute, que trace le chat dans de parfaites arabesques. Telle une flèche, l'animal bondit sur le dossier du fauteuil et glisse sur l'assise, comme pour encourager celui qui, désormais, se déplace avec tant de peine. Il aimerait se lever entre les genoux cagneux de son maître qui l'encourage à passer entre ses pattes dans une danse hasardeuse. Il se retourne de temps en temps, sa queue en l'air, tel le parapluie d'un groupe de Coréens traversant le Louvre, et laisse voir son petit trou du cul blanc bordé d'une jolie touffe noire. Il bondit d'une chaise à table et jusqu'au fauteuil comme pour tracer la route de son compagnon. Concentré sur son projet, le vieil homme garde l'œil fixé sur le journal. Il tente de se lever, prend son élan, mais contrairement à ce matin, les jambes tremblent de plus en plus, surtout la droite. Il l'insulte comme s'il parlait à une personne. « Ah, c'était si facile tout à l'heure! Tu me prends pour une andouille? Mais pourquoi ces sacrées jambes ne suivent-elles pas ?» Il arrive enfin à se mettre debout et, poussé par l'agitation fiévreuse qui le gage, astérisque, sans rien demander à personne, il se décide à traverser le salon jusqu'au fauteuil pour récupérer son journal. Le chat, installé à nouveau sur le large accoudoir, le regarde s'approcher en clignant des yeux, les pattes repliées sous le ventre. À la vue de son ami, si lent à se déplacer, il se redresse en s'étirant. Il espérait un reste de brandade, elle a disparu. Tant pis, il aiguise encore quelques griffes. Le vieil homme ne proteste plus. Bouche bée, il admire son petit compagnon qui, d'un coup, virevolte encore et brutalement, choisit de s'étaler de tout son long dans le creux que forment les cuisses amaigries du vieil homme. Le chat a fermé les yeux et ronronne bruyamment, la tête posée sur ses genoux. Il a retrouvé sa place favorite. Le vieil homme aussi, tout entier absorbé par les grilles de ses mots croisés.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Soir d'octobre. Tout commence un soir d'octobre à Paris. Dans la rue sombre, on devine l'ombre des passants qui pressent le pas pour échapper à la bise. Je prépare le feu dans la cheminée du salon, tandis que lui s'affaire autour des coquilles Saint-Jacques, les premières de la saison. Comme toujours, j'admire la manière amoureuse dont il traite les coquillages. Penché vers eux, il les dépose sur la planche, les nettoie délicatement, puis les enveloppe dans du papier absorbant. Il les touche comme on caresse la joue d'un tout petit, séparant les coraux de la chair blanche à peine badigeonnée d'huile d'olive, prêt pour un aller-retour dans la poêle. Voilà, à table. Au moment où il s'assoit, il me lance « Tu devrais voir un médecin. Ta main droite tremble. » Ah, bon, j'allais me servir. Je retiens ma main, la regarde. Oui, c'est drôle, elle tremble. C'est parce que j'avais peur de me brûler en allumant le feu. Il insiste. Peut-être c'est ça, peut-être pas. Va voir quelqu'un. Il faut que tu consultes. Je grommelle. Que je consulte, mais qui ? Regarde ma main, elle tremble à peine. Va voir quelqu'un, d'accord ? Bon, d'accord. C'est Saint-Jacques, sublime ? Oui, oui, je n'oublierai pas. Le lendemain, je prends rendez-vous. Ce sera pour le 10 octobre, rue de l'Assemblée au numéro 4, avec un neurologue. Je me souviens précisément de la date parce que ce jour-là, le chauffagiste était venu vérifier la chaudière avant l'arrivée de l'hiver. Il faisait encore doux, l'été voulait revenir et ce mois d'octobre s'annonçait comme l'un des plus chauds que la Terre ait connu. On parlait réchauffement de la planète, été indien, on fredonnait Joe Dassin. Ça n'allait pas si mal après tout. Et le jeune homme qui conduisait le camion avait de bien beaux yeux. Aussi efficace pour nettoyer les radiateurs que pour conduire dans Paris, droit devant lui, il évitait de me regarder, se contentant de deux ou trois coups d'œil en douce au feu rouge. Il parlait peu, nos échanges étaient comme l'air léger. Tout avait pourtant mal commencé entre nous. Quelques minutes plus tôt, j'avais presque éclaté de rage à cause du retard pris par la vérification de la chaudière qui risquait de me faire rater le rendez-vous. Il avait posé son regard gris-bleu sur mes joues toutes rouges. « Je déteste être en retard, vous comprenez ?» Il a hoché la tête. « Venez, je vous amène. »« Mais comment ?»« Avec mon camion. »« Mais vous n'avez pas fini. »« Si, si, ne vous inquiétez pas. » « Vous allez où ?»« Convention. Nous y serons dans 20 minutes. Ça vous va ?»«
Bien sûr, ça me va. »
Nous voilà partis. Et à peine la portière claquée, je sens le sommeil m'envahir d'un coup. Ça m'arrive de plus en plus souvent de m'endormir brutalement, n'importe comment, n'importe où, ou comme si un hypnotiseur me l'ordonnait. Je m'endors. Donc, bercé par les chaos, les nids de poules, je glisse sur son épaule. Soudain, je vois le médecin qui court devant moi. Je dois le rattraper. « Docteur, docteur, je ne suis pas en retard. Je pourrais vous montrer. Regardez, regardez, je tremble. Ma main, rendez-moi ma main. Ma main, ma main !» Mon cri me réveille. Ma tête est encore appuyée sur son épaule. Vite, je me redresse lui aussi. Il me regarde un peu troublé. Gêné, j'enchaîne un sourire niais. On oublie les cris, on les efface. Et pour éviter le silence, on se met à parler. Je pose les questions, lui répond. Je me réveille peu à peu en l'écoutant. Il va partir dans le sud, du côté de Nice, pour rejoindre son amoureuse qui vient de signer un contrat d'infirmière là-bas. S'il va trouver du boulot à Nice? Il ne sait pas trop. Pour le moment, il n'y pense pas. Il a l'air heureux. Il me regarde du coin de l'œil de temps en temps, l'air ébahi, aussi étonné que moi, de notre drôle d'intimité. Il murmure « Ah, si elle me voyait là, avec vous !» Finalement, on a fait un selfie à un feu rouge, sinon elle n'allait pas le croire. Il m'a déposé au carrefour du pont. Je lui ai souhaité bonne chance. J'ai sauté du marchepied et je me suis retournée vers lui. Ses yeux étaient devenus gris. J'ai traversé vers l'immeuble ocre carrelé au numéro 4 de la rue de l'Assemblée. Décidément, ce début d'automne s'annonce comme un début de printemps. Les hommes sont beaux, les jeunes femmes les suivent du regard et ralentissent le pas sans même s'en rendre compte. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Apollinaire. Son pont Mirabeau est juste derrière moi, et de là le numéro 4. Je pousse la grille. Tout est beau dans cet immeuble, l'intérieur comme l'extérieur, motifs gracieux, fer forgé dans la rampe, petite colonnade dans le jardin. L'immeuble baigne dans cette couleur ocre, entre rose et jaune, qui évoque l'Italie, le soleil, la chaleur. Là-haut, m'attend le médecin, le vrai. Je sonne, la porte s'ouvre sur un corridor sombre. À voix basse, on m'invite à entrer et à enlever mes chaussures pour protéger l'enfant qui dort dans la pièce à côté. on pénètre dans un bureau où les calebasses s'appuient sur des murs couverts de vieux livres. Les fenêtres ouvrent sur la cime des arbres de l'avenue. Le soleil se glisse dans le feuillage roux des premiers jours d'octobre. Il se retourne vers moi, je le découvre, enfin. Première rencontre. Il est mince, jeune, le cheveu en bataille, l'air vif, rieur, vêtu d'une blouse blanche comme à l'hôpital. Au diable les mauvais rêves, il me plaît, la journée s'annonce agréable. Je lui parle des tremblements dans ma main droite. On joue ? On joue. Je dois marcher d'abord de long en large dans son bureau, puis il me demande d'écrire, puis de tenir en équilibre sur un pied, puis de dessiner une horloge. C'est plutôt rigolo. Sauf pour écrire. Depuis quelques mois, je n'arrive plus à écrire à la main. Sans doute la fatigue. Heureusement, il reste l'ordinateur. Et à présent, il parle, il décrypte mes tests. Je découvre que je marche sans me servir du bras droit, mon écreviste, un astérisque, ressemble à des pattes de mouche, et ce n'est pas à cause de la fatigue. Le mot de Parkinson revient bizarrement, souvent, dans ses explications. Une question me taraude. Au moment où je la pose, je la regrette déjà. Trop tard, il répond. « Oui, » dit-il calmement. « Oui, vous avez la maladie de Parkinson. Moi ? Mais c'est quoi cette blague ? Moi ? J'ai cette affreuse machine dans mon corps ? Ce truc qui change les mots, les phrases ? Qui abolit la pensée, la raison, la mémoire. J'énumère dans ma tête tous les symptômes que je connais ou dont j'ai seulement entendu parler. La tante Germaine qui dodelinait de la tête à longueur de journée, ma mère qui la regardait sans la voir, ma prof d'histoire qui tapait le chiffon de craie sur sa jupe, passait la main dans ses cheveux qu'elle saupoudrait de craie, et quitter la salle à la fin des cours, blanche comme un pierrot. Le fleuriste, qui mangeait ses fleurs, surtout les rouges. Ah, non, lui c'était Alzheimer, je mélange tout. Tenez, à propos, est-ce qu'on est épargné d'Alzheimer quand on a Parkinson? Non, répond-il. Et on peut avoir les deux en même temps ? On peut. Je veux regarder la vérité en face. Tout connaître de cette maladie. Comment elle évolue ? Est-ce qu'on peut en mourir, en guérir ? Je veux tout savoir. Mon obstination lui arrache un semblant de sourire. Tout connaître de cette maladie ? C'est impossible, dit-il. On commence à peine à comprendre le cerveau humain, mais je vous tiendrai au courant des progrès. Et je remercie.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Joli pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Je rentre chez moi, un poids lourd sur les épaules. Un mot nouveau devenu réalité hante mon esprit pour toujours. J'établis une liste non exhaustive des symptômes. Trembler, baver, tourner en rond, crampes, ralentissement de la marche, hésitation, mémoire récente défaillante, discours incohérent, cauchemar, perte des repères géographiques, main gauche tordue, constipation, larmes, sentimentalisme, trébuchement, insomnie, hallucination fugace, fourmillement dans les pieds, le dos, peur des escaliers, des vélos, de la vitesse, des bêtes sauvages, peur d'être abandonnée, d'être seule la nuit, peur de tout. Généalogie incertaine, déambulation sans objet. Est-ce que tout cela fait une maladie ? Je suis bien certaine, cher lecteur,
qu'à lire la courte liste non exhaustive de ses symptômes, certains d'entre vous se croient aussitôt aux portes de la mort. Détrompez-vous ! La lecture des symptômes de Parkinson ne donne pas la maladie de Parkinson. En attendant, n'ayez plus peur et continuez votre lecture. Je vous rappelle que Parkinson n'est pas une maladie mortelle, contrairement à d'autres dont on ne se remet pas. Notez aussi, je vous prie, que le fait de vivre une maladie qui n'est pas mortelle n'implique pas que nous soyons immortels, vous l'aurez remarqué. Et si votre inquiétude est plus forte que tout, allez consulter un neurologue. Parkinson ? Justement, derrière son bureau, le mien sourit. Il connaît ces moments où le patient oscille entre cynisme et panique. « Vous allez trop loin. Ces symptômes ne vous concernent pas en ce moment. Et rien n'indique même que vous aurez à souffrir un jour de ce genre de problème. » »« Je m'en fous. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et je n'en veux pas. Vous comprenez ?»« Mais c'est quoi ces mots qui ne veulent rien dire ? C'est quoi ce « en ce moment » ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? On guérit ? Je fais l'effort de rescousser. Astérisque. J'obéis, je suis perdue. Ce n'est pas possible. Je suis venue simplement à cause d'un petit tremblement dans le bras droit. Il faisait beau, tout allait bien. L'irruption de la maladie n'avait rien à faire ici. Je n'ai jamais été malade. Et je me trompe de mots. Rien de grave, juste des bévues. Des oublis saugrenus, ça peut arriver à tout le monde. J'ai l'air d'une petite nature comme ça. Mais vous savez, docteur, je suis très résistante, très vaillante quand je veux. C'est juste de la paresse. Oui, je suis très paresseuse. Et d'ailleurs, tout ce que je dis là, je le garde pour moi. Je ne vous dis rien, ça m'évite de chercher mes mots. J'écoute. J'ai l'impression que vous parlez à quelqu'un d'autre que moi. D'ailleurs, je ne comprends pas bien ce que vous dites. Vos mots me sont complètement étrangers. Il doit trouver que je fais une drôle de tête. Je sens les tremblements qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas qu'il voie ma main trembler. Je la regarde sévèrement, comme on regarde un chien mal élevé. Ma main est devenue mon animal de compagnie, il l'a vu. Ne vous inquiétez pas, grâce aux médicaments que je vais vous donner, personne ne se rendra compte de votre maladie. Elle va rester invisible. Mais bon, pour vous mettre à l'aise, que vous en sachiez plus sur ce qui vous arrive et risque de vous arriver, je vous propose d'aller voir la professeure la plus en avance sur la maladie de Parkinson. J'espère qu'elle pourra vous confirmer le diagnostic et vous rassurer. Avec une pareille nouvelle, deux avis valent mieux qu'un, c'est sûr. Allez la voir, je prépare une lettre à son intention. Et inutile d'alarmer votre entourage. En dehors de votre mari, bien sûr, mais pour vos enfants, vos amis, vos collègues, l'expérience me fait dire qu'il est préférable pour le moment de ne pas en parler. Oui, oui, je comprends. Je comprends toujours tout, moi. Depuis que je suis née, je comprends tout absolument, je ne dirai rien à personne, et de toute façon, on s'en fiche que je comprenne ou pas, je veux juste partir. On étouffe ici. Post-Parkinson. Me voici à nouveau jetée sur le trottoir, ébahie, à jamais incrédule. Devant moi, le pont Mirabeau où coule la Seine. Au milieu de ma traversée, je m'arrête. Dans le ciel, les mouettes crient en groupe virevoltant. Je voudrais être avec elles là-haut, voler comme un grand oiseau blanc qui ne connaît pas les maladies des humains. Combien d'entre elles partiront vers le sud ? À Paris, les hivers sont de plus en plus doux et les oiseaux migrateurs s'y installent à l'année. Je me penche vers le fleuve. Les eaux tourbillonnent autour des arches d'acier. À la surface, des bourrasques apportent des embruns jusqu'à moi. Mon exaltation se nourrit de ce spectacle d'eau, de fer et de vent. Je me penche encore, je prends le risque. Quel risque ? Celui de révéler ma maladie ? Le risque n'est pas grand. Et je sais déjà qu'on me reprochera d'étaler ma vie privée dans un livre. Et oui, une fois de plus, je serai la matière de mon livre. Une matière abîmée par la maladie, mais aussi, au paradoxe, enrichie par Parkinson. Je voudrais que l'écriture, le fait d'écrire ce qui m'arrive, me construise face à cette nouvelle aventure et construise aussi ceux qui sont victimes de ce handicap et auront eu l'envie de me lire. J'attends de ce mal tout en une manière de mieux me connaître, de mieux appréhender le monde qui m'entoure et les nouveaux mots qui l'accompagnent. Alors, quel risque ? Tomber, me jeter à l'eau, oser quoi ? Ai-je jamais pris aucun risque ? Et pourquoi aujourd'hui, après l'annonce du diagnostic si évident et si inattendu, ce sentiment de gloire, de toute puissance que le spectacle des tourbillons renforce, anime ? Ai-je jamais osé ? Jamais fait preuve d'audace ? Passer à l'antenne ne m'a jamais effrayé. Mais était-ce vraiment de l'audace ou bien ce goût bizarre de me montrer ? De l'audace, toujours de l'audace, disait Danton, d'accord. Tenter le pari, y aller, courageusement, y aller pour une fois. Pourquoi ? Oublier la peur et pourquoi pas ? À qui dois-je prouver mon courage, ma lucidité ? J'écris pour moi et pour moi, pour vous qui me lirez. Malade, parents, proches, enfants, amis, amoureux, je prends le risque de vous faire partager ce qui est resté caché jusqu'à ce jour. Je veux vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes des milliers à vivre cette maladie chronique, ce que les autres, les bien portants, ne peuvent pas toujours comprendre. Notre maladie est invisible durant les premières années. Et après, qui le sait ? Les rafales de vent m'aspirent, m'attirent, m'engloutissent. Je me penche. Le sang monte à ma tête. Pas prête à mourir, non, prête à vivre plutôt, fort, intensément, manger la vie. Sous le pont Mirabeau, la voix caverneuse d'Apollinaire semble vibrer de joie, de gaieté, de désir, dans l'enchevêtrement des poutres de fonte, de bronze, d'acier, comme je l'ai entendu au musée de l'Orangerie il y a 8 jours à peine. On se place sous une douche de lumière et la voix d'Apollinaire chante le pont Mirabeau, résonne, s'impose, m'enveloppe toute. J'étais seule dans mon cercle de lumière, seule en tête à tête avec la voix lointaine et si présente pourtant. Vive, vivante, je sens la joie m'envahir lentement en écrivant ces premières lignes. Je deviens un être nouveau, l'armure de bonne éducation qui me tenait recroquevillée sur moi-même a disparu dans les remous du fleuve. Les larmes tout d'un coup jaillissent et coulent sur mon visage. Non, ce ne sont pas les embruns. Je suis en larmes, larmes de joie, larmes de liberté. Adieu mon corps, va vivre ta vie, nous existons l'un sans l'autre. Laisse-moi. Ce 10 octobre où j'apprends que je souffre de la maladie de Parkinson, je suis soulagée, libre enfin. Libre de quoi ? Soulagée de quoi ? Je ne sais pas. Je jouis juste de ce moment. Je pressens qu'il ne durera pas. J'écoute les tourbillons de l'eau. Cette maladie me met à ma place, à ma juste place. Même avec des tremblements, je suis aujourd'hui dans le bon équilibre. J'essaierai de ne jamais le perdre. Le corps se débrouillera. Je suis telle Turenne. Tu trembles, carcasse. Mais tu tremblerais bien plus encore si tu savais où je te mène. Voilà le vrai courage. À moi d'en être digne. J'ai la maladie de Parkinson, je n'arrive pas à te le dire. Je bute sur ce mot comme je bute sur ma vie. La joie s'étiole, reste la question. Pourquoi moi ? Pourquoi cette maladie qui vient de moi ? Qui naît en moi, je ne sais plus. En cette fin de lecture du premier épisode de Tremblay, écrit par Catherine Laborde, Nous voyons qu'avec quelques hésitations d'abord, puis en toute connaissance de cause, une visite chez le spécialiste a donné un nom à cette maladie. Parkinson. Mais Parkinson est une maladie aux formes multiples et très diverses qui nécessite des suivis très personnalisés. Étant moi-même porteuse d'un Parkinson connu depuis plus de 12 ans, je peux en témoigner. En complément de diagnostic, il sera nécessaire d'en demander un dans la suite du livre. Donc, à bientôt pour une prochaine émission « Je lis pour vous ». N'hésitez pas à écouter le direct sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+, les mardis et mercredis à 21h avec rediffusion les lundis et mardis à 6h. Vous pouvez aussi nous suivre avec les podcasts sur notre site www.radioallianceplus.fr. Émission « Je lis pour vous ». À bientôt, chers auditeurs.